Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, à mon tour de vous souhaiter tout d'abord une bonne année avant de rentrer dans le thème. Je fais toujours un petit top 5. Non, j'essaie de garder une des meilleures souhaits de vœux que j'ai reçus. Alors, pour vous aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà. Bonne année et bonne santé. Mais plus sérieusement, non, vraiment, Damrys et moi, on aimerait vous souhaiter vraiment une excellente année 2022. On se réjouit encore d'être là avec vous, de vous servir dans cette nouvelle année. Et puis, c'était touchant parce que le 31, on a juste pu prendre un bon petit temps, on était se promener. Hein. Vous savez que c'était une des journées les plus chaudes, vous avez entendu. Hein. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas eu un mois de janvier, 1er janvier comme ça, hein. Mais pas Yverdon. D'accord, Yverdon, c'était, il fallait partir, il fallait aller au-dessus des nuages. C'est ce qu'on a fait. Et puis on s'est promené, on a pu prier aussi pour l'Église, pour chacun de vous. Et puis la parole qu'on a reçue, c'était Deutéronome 28. Le début de Deutéronome 28, c'est vraiment la bénédiction, bénédiction en perspective. C'est le titre du texte. Bien sûr qu'il s'adresse au peuple d'Israël, mais je dis waouh, tu reçois ce texte, Deutéronome 28, tu es dans ta tête là, c'était déjà quoi? Tu ouvres bénédiction à perspective. Ah, c'est bien ce qu'on avait besoin, je crois. Et puis ça commence par si tu m'obéis. Hein. C'est l'obéissance, d'abord. Et ça me parle vraiment. Et je crois que c'est vrai, il a vraiment des belles bénédictions en perspective, en réserve pour nous, mais ça passe toujours par l'obéissance. Alors, je nous invite à l'obéissance encore dans cette année 2022. Et puis, j'aimerais vous dire vraiment que Dieu aimerait, son désir, c'est de vous combler, c'est de combler les désirs de votre cœur, de remplir votre vie. Et puis, je crois que c'est important de le redire en ce début d'année. C'est son projet pour toi. C'est vraiment de te remplir, de combler ton cœur. Et j'aimerais vraiment vous encourager, vous motiver à aller chercher ces pépites encore en 2022, de ne pas vous arrêter là ou de vous satisfaire de là où vous êtes, mais de continuer à avancer avec Christ. Est-ce que vous pensez, vous croyez que Christ peut vraiment vous rassasier? Yes, super, ça c'est très bien. Est-ce que vous voulez que Christ vous rassasie? Bon, c'est deux bons points très importants pour commencer l'année. Hein. Est-ce que vous avez déjà laissé faire quelqu'un vos courses alimentaires? Est-ce que vous avez déjà donné à quelqu'un, dit, fais mes courses, s'il te plaît? Avec le Covid, il y en a quelques-uns qui ont permis ça. C'est peut-être une première expérience qui est souvent pas facile. Parce que soit tu as une liste très précise, et puis là, ça se passe assez bien. Mais il y a quand même des produits que la personne, elle va prendre autre chose, elle va prendre pas la bonne marque, hein, vous n'avez pas l'habitude. Et puis si vous laissez complètement la personne faire, alors là, vous êtes vraiment perdu. Hein, ça, c'est vraiment un exercice assez difficile de laisser faire nos courses parce qu'on a nos marques, on a nos habitudes, donc on n'aime pas trop ça. Mais lorsque je dis que Jésus nous rassasie, eh ben, c'est qu'il faut peut-être lui laisser faire les courses. D'accord? Il faut peut-être lui laisser faire les courses. Laissez-vous surprendre en 2022 par son menu à lui. Laissez, lâchez prise, laissez-le faire. Il sait ce dont vous avez vraiment besoin. Nous, on dit non, c'est ce truc-là que j'ai besoin. Lui, il va vous amener peut-être autre chose, mais lui, il sait. Donc, laissez-vous surprendre par son menu. Et je crois que c'est important pour entrer dans ce message aujourd'hui, d'avoir cette foi en un Jésus qui pourvoit. On a un Jésus qui nourrit, qui prend soin, on a un Jésus qui est suffisant, parce qu'effectivement, ce matin, on parle d'insatisfaction. Et je crois que c'est la base. C'est sûr, on a cette foi en ce Jésus qui nourrit, ce Jésus qui pourvoit. Alors, on va pouvoir vaincre cette insatisfaction. Donc, je prie que cette année 2022, ben, Christ vous comble, vous rassasie, vous remplisse, vous suffise. Et puis que l'insatisfaction ne prenne pas place. Peut-être qu'elle a pris place en 2021, mais ce ne sera pas le cas en 2022. Alors, l'insatisfaction, on en parle un petit peu aujourd'hui. Voilà, je vais vite. Il reste en tout cas un message en fin janvier, ce sera victoire sur la colère. Hein, donc je pense que ce sera un dimanche musclé, quoi. Hein, tous les gens qui ont des problèmes de colère, vous venez dimanche 30. Non, non, on a des fois les plus calmes sont les plus colériques. On verra tout ça. Bon, on reste à l'insatisfaction. L'insatisfaction, si je peux la définir rapidement, hein, c'est un état de frustration ou de déception qui s'installe lorsqu'un désir n'obtient pas ou n'obtient aucune réponse. On a l'impression d'avoir peut-être aussi manqué quelque chose, passé à côté, puis ça nous met dans un état de frustration, d'insatisfaction. Ce n'est pas comme on voudrait. C'est peut-être aussi ces désirs qu'il était de question dans Romains 13, de l'homme sans Dieu finalement. Donc, l'insatisfaction laisse une impression de manque et d'absence. Inversement, la satisfaction, c'est la plénitude et le bonheur. C'est un état de contentement, on est comblé. Alors je ne peux pas parler de l'insatisfaction sans regarder rapidement le texte de Nombre 11. C'est probablement un texte que vous connaissez assez bien, mais il est quand même extraordinaire, il est révélateur. C'est l'exemple parfait, l'exemple biblique de l'insatisfaction. Et il y a tellement de parallèles avec nos vies. Donc le peuple d'Israël a été livré à l'esclavage, il est en Égypte. Vous savez tout ça, l'Éternel prend soin d'eux. Ils sont nourris miraculeusement. Enfin, ils sont donc délivrés de l'Égypte, hein, ils sont dans le désert. Ils sont nourris miraculeusement avec ce pain, la manne, qui recouvre la terre chaque matin, qui tombe du ciel. C'est la rosée du matin, c'est la manne. Et puis, au bout d'un moment, le peuple commence à murmurer. Et c'est vraiment la caractéristique du peuple d'Israël. C'est devenu même une mentalité. On pourrait parler de la mentalité du désert. Hein, ils murmurent. Et puis, à peine parti du Sinaï, lieu de vraiment de rencontre avec Dieu, de la présence de Dieu, lieu de promesse, et ben hop, ils retombent dans leur murmure. Et puis on peut lire quelques versets en Nombre 11, où il est dit ceci, « Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Là, vous avez tout le repas de Nouvel An qui revient. Bon, maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Puis il est encore précisé au verset 8 que la manne avait un goût de gâteau à l'huile. Alors on peut être un peu choqué en lisant ça, on dit un peuple franchement qui est ni reconnaissant, ni heureux, mais au contraire qui est râleur, insatisfait, mécontent. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était encore là, était encore bien présent dans leur esprit. En tant qu'esclaves en Égypte, ils n'avaient aucune perspective d'avenir, le sens à la vie était moindre. Ils entretenaient uniquement cette mentalité de survivre, survie, survie, survie. Et puis, en marche vers la terre promise, Israël doit peu à peu découvrir son identité, son appel, son but. Puis je crois que ça, c'est important, parce que sans but, sans appel, sans perspective, on reste toujours insatisfait. Il y a une leçon très, très importante, une leçon spirituelle ici, au travers de ce récit. On ne trouve pas satisfaction permanente. On ne trouve pas de satisfaction permanente dans la chair, hein, dans le naturel. Sans Dieu, donc sans la perspective du pays promis, nous allons vivre de frustration en frustration. Mais avec Dieu, au contraire, on peut lever les yeux vers l'avenir. C'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On peut vraiment regarder à lui, regarder ce qu'il a en réserve, et puis on peut avancer dans la foi vers notre destinée. L'apôtre Paul, il parle de crucifier les désirs de la chair, hein. Un chrétien, il doit passer par là pour pouvoir se saisir des valeurs éternelles qui donnent vraiment la satisfaction et puis pouvoir se réjouir des promesses de Dieu. Mais il y a besoin à un moment donné de se couper, de vraiment crucifier ses désirs de la chair. Alors on va juste regarder encore dans ce texte quelles sont les raisons de ces murmures. Première chose qu'on peut relever, on pourrait sûrement en relever d'autres, mais c'est la convoitise de la chair. Donc ils avaient d'un coup justement ces désirs qui étaient là. Le peuple est saisi de convoitise. Et puis, il semble qu'il lui manque quelque chose. En tout cas, il lui manque de la viande, ça c'est certain. Hein, on peut comprendre ça. On sait que les Suisses, on mange trop de viande. Alors, on peut imaginer, hein, au bout d'un moment. Mais vraiment, là, il y a le menu leur convient pas, quoi. Le choix du menu, ça va pas. Et puis, c'est une bonne question pour nous aujourd'hui. Sommes-nous satisfaits de ce que Dieu nous sert? Est-ce qu'on est satisfait du menu, vraiment? Ou bien on est toujours en train de remettre en question le menu, justement? C'est pas les bonnes courses qu'il nous a fait, là. Qu'est-ce qu'il en est? La deuxième raison de ces murmures, c'est le regret de l'Égypte. Hein, nous nous souvenons. Donc il y a une nostalgie du passé, au verset 5. Hein, elle était belle, l'Égypte, et puis ils repensent à ça. Mais on dirait qu'ils ont oublié tout le reste. Ils ont comme occulté le fait qu'ils étaient fouettés, qu'ils étaient esclaves, que c'était une vie où ils devaient juste, vraiment, à la force du poignet, etc. Donc ils ont oublié tout ça. Et puis ils disent encore que ce qu'ils mangeaient ne leur coûtait rien. Ah, ça ne nous coûtait rien. Bon, c'est une façon de voir, hein. C'était un impôt déguisé, ça. Mais est-ce que la manne leur coûtait quelque chose? Est-ce que ce que Dieu avait mis devant eux leur coûtait quelque chose? Absolument rien. Ils avaient qu'à baisser et ramasser la manne. Donc c'est terrible de regarder comme ça ce passé d'esclaves sans réaliser ce que Dieu a fait. Ils sont presque en train de dire, mais pourquoi Dieu, tu nous as délivrés, quoi? C'est hallucinant. Il y a une forme vraiment d'ingratitude terrible. Alors que ce soit dans nos vies personnelles ou dans l'Église, il n'est jamais bon de vivre avec le regret du passé. Et puis c'est encore plus vrai dans cette période, j'avais parlé de ça au début 2021, j'avais dit on ne veut pas regarder dans le rétroviseur de comment était l'Église, etc., mais on veut vraiment regarder à Jésus, fixer nos yeux sur lui. Vous êtes peut-être dans un désert, on l'est peut-être en tant qu'Église, avec un grand E, mais on doit garder cette réalité que Dieu nous conduit quelque part. Comme il conduisait le peuple, il les conduit quelque part. Parfois, il faut passer par le désert. Ce verset de Ecclésiaste 7, 10 nous dit « Ne dis pas comment se fait-il que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. » Ecclésiaste 7, 10, je ne l'avais pas à l'écran, notez-le, c'est une bonne question. Troisième raison de ces murmures, l'oubli de la délivrance et des promesses divines. Donc le souvenir de la plus grande de toutes les délivrances, elle est déjà estompée. Ils ont déjà oublié. Ils ont oublié qu'ils ont été délivrés. Et nous? Et toi? Est-ce que tu te souviens que Dieu t'a délivré? Parfois on se plaint à Dieu, puis on oublie vraiment d'où on vient. On oublie d'où il nous a tirés. Quelle est la grâce qui nous a été faite de le rencontrer? On a la mémoire courte. Et puis même, surtout avec les moments difficiles, même dans les moments difficiles, on a tendance avec le temps à se souvenir que des bonnes choses dans un moment difficile. Peut-être vous avez déjà réalisé ça. Moi, j'ai plusieurs exemples très bêtes, très terre-à-terre, très concrets. Hein, mais dans les moments les plus durs de la vie pastorale, je me suis dit, ah, c'était quand même sympa d'être chauffeur poids lourd. Je roulais, personne ne m'interrompait. Je pensais à ce que je voulais. Je m'arrêtais si j'avais envie. Puis d'un coup, tu repenses à les fois où il neige, puis t'es au froid, et puis tu dois chaîner, ou qu'il pleut, des rôles, des seilles, puis qu'il faut décharger, puis t'es trempé, puis t'as froid, puis tu sens plus tes mains. On oublie vite, hein, on oublie vite. Ou bien un autre exemple très bête. Récemment, je me retrouve à Lausanne, centre-ville. Vous savez, tu pars, il y a des bouchons, t'es en retard. Après, t'arrives, tu trouves pas de place de parc. Oh, mais qu'est-ce que c'est pénible de pas trouver de place de parc. Puis enfin, quand on a une, tu regardes combien coûte l'heure. Puis tu te dis, mais les gars, ils auraient pu marquer, faudrait que les lignes elles soient en or et puis qu'ils aient incrusté au moins des lumières LED, enfin un truc quoi. C'est hallucinant. Puis là, tu te dis, oh, c'était beau le temps où j'étais en scooter. C'était génial. Pas de parking, pas d'embouteillage, on se faufile. Puis là, le Seigneur me rappelle une prière que j'avais faite, je me revois sur mon petit scooter, en hiver. Seigneur, c'est la dernière fois. J'aimerais tellement une voiture. Mais on oublie ces choses-là. Hein. C'est terrible. Alors oui, la délivrance du scooter n'a pas de commune mesure avec la délivrance du peuple d'Israël ou bien de notre propre délivrance de l'esclavage du péché. Mais la mentalité du murmure est la même. C'est exactement la même chose dans ces petits aspects du quotidien. Il faut encore dire que le peuple, en plus d'oublier sa délivrance, il a aussi oublié les plans de Dieu et ses promesses. Donc c'est un peuple béni, c'est un peuple qui est mis à part, qui a une destination, un avenir glorieux, puis ils oublient ça. Le pays promis, ça leur paraît tellement lointain, ils ont perdu la vision, ils ont perdu les promesses. Hein. Quand on perd la vision, alors là, c'est terrible. Donc le peuple, il voit plus que le désert, c'est-à-dire leur réalité immédiate. Les conditions de vie difficiles. Les yeux ne voient que le sable brûlant de l'épreuve. Et vous ? Et nous ? On est beaucoup parfois à baisser les bras hein, lorsque les réponses, elles n'arrivent pas. On a envie de lâcher. On pense que Dieu n'est pas intéressé à nous exaucer. Puis on devient frustré. La lassitude nous envahit. On est découragé. Donc poursuivre, ça nécessite la foi, le courage, la persévérance. Et puis la lecture de la parole va nous y aider. Donc je vous encourage aussi en 2022 à ne pas laisser la Bible juste sur la table de nuit, hein, mais aussi à vous en saisir. Il y a les plans de Dieu, la vision, les promesses de Dieu là pour nous aujourd'hui. Quatrième raison des murmures, c'est l'arrêt de la louange. Parce que c'est intéressant, parce qu'avant ces moments-là, ils ont eu ce temps de rencontre avec Dieu. Il y a le tabernacle, la tente de la rencontre, ils ont l'arche de l'alliance, il y a quelque chose qui se passe. Et puis là, la louange, elle cesse. Et quand la louange cesse, les murmures, ils arrivent. Et ce chant qu'on a chanté tout à l'heure était très très bien. Béni l'Éternel. Et ben, le choix de bénir son nom en toutes circonstances, c'est tellement important. Je crois vraiment que l'arrêt de la louange, c'est un obstacle à la bénédiction. On se plaint vite de bien des choses qui ne s'arrangent pas comme on le souhaite, et puis on se plaint indirectement, on se plaint à Dieu. Indirectement, on se plaint de Dieu. L'arrêt de la louange. Cinquième chose, c'est justement le mauvais menu, au verset 6. Notre âme, elle est desséchée, hein, il est dit, on n'a plus rien. La manne, donc, elle a vraiment perdu son goût, elle a perdu sa saveur, et puis il convoite la viande. Et c'est intéressant parce que dans l'Exode, la manne, elle est vraiment présentée avec un goût de miel. D'accord ? Donc, vous voyez l'évolution. Dans l'Exode, c'est le bon goût du miel. Maintenant, elle a le goût de gâteau à l'huile, au verset 8. Et puis 10 chapitres plus loin, au chapitre 21, verset 5, ils disent « On est dégoûté de cette nourriture misérable. » Donc voyez un petit peu la progression. Hein. Le miel, après ça le goût de l'huile, puis là on est vraiment mais dégoûté, c'est misérable, c'est terrible. C'est quand même très fort parce que ça veut dire que même des choses que Dieu a données fidèlement, ben, on finit par s'y habituer et puis elles peuvent perdre leur saveur, leur valeur à nos yeux. Et on finit même par s'en plaindre. Donc des choses qui viennent de Dieu, ben finalement, elles peuvent devenir misérables à nos yeux. Ça, c'est intéressant. Donc il est facile de laisser place à une forme d'insatisfaction dans nos vies. Surtout qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, ben on nous fait toujours miroiter qu'il y a plus, hein, qu'il y a mieux. Alors on est rarement satisfait, quoi. Mais je crois vraiment qu'il est possible de vaincre l'insatisfaction, c'est pour ça que je suis là ce matin. Mais je ne crois pas que c'est une victoire qui est vraiment une délivrance surnaturelle. Je ne dis pas, ça peut. Mais je ne crois pas que c'est comme ça que le Saint-Esprit va procéder. Je ne crois pas que vous allez repartir de là en n'ayant plus jamais le sentiment d'insatisfaction. Puis, non, ça c'est fini, c'est complètement réglé, vous êtes toujours comblés. Non. Parce que je crois que cette victoire sur l'insatisfaction, elle s'apprend. Et Paul va dire ceci en Philippiens chapitre 4, verset 11, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Je je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il y a un apprentissage. Il y a un changement de mentalité. Ce n'est pas du tac au tac. Alors, la première, donc on va juste regarder trois pistes. Comment, finalement, Paul, peut-être, a appris cela? Comment nous pouvons, nous, aujourd'hui, apprendre à être contents, à être satisfaits? Bien, la première des choses que je vous propose ce matin, c'est d'apprendre à différencier nos désirs de nos besoins. Différencier nos désirs et nos besoins. Philippiens 4:19, il est dit encore, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je pourvoirai à tous vos besoins. D'accord ? Pas tous vos désirs, mais vos besoins. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on dit, hein, on nous crée des besoins. Il y a tellement de publicité, de trucs à la télé, partout. Hein, on crée des besoins. On aimerait que vous ayez besoin de ça. Puis on vous dit, c'est tellement génial, il faut l'acheter. On cherche à éveiller nos désirs, en fait, en nous créant des faux besoins. Et puis finalement, quand on rentre dans ce schéma-là, bah, c'est vrai qu'on n'est jamais satisfait. Et même, on est blasé de tout ce qu'on nous donne. On est blasé de ce qu'on a. Puis on désire toujours plus, on désire toujours du neuf. Et puis en espérant que ça nous remplisse, que ça nous satisfasse, que ça soit joyeux. Bien sûr, c'est un mensonge, mais on continue à y croire. On continue à y croire. Et petit à petit, nous sommes tournés vers nos propres désirs. Puis on pense toujours à ce qu'on aimerait, ce qu'on aurait éventuellement besoin. Mais ce n'est pas un vrai besoin. La parole de Dieu nous oriente encore dans nos besoins avec ce psaume 37, verset 4, qui est bien connu. « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Autre traduction, « En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. » Donc c'est mettre la priorité sur notre communion, notre relation avec le Seigneur, qui a des conséquences bénéfiques. Nos désirs profonds seront alors inspirés par le Saint-Esprit au moment où on choisit Christ. C'est d'abord Jésus, fait de l'Éternel tes délices. Et puis là, il y a quelque chose qui va en découler, qui est bon. Donc il faut se rappeler que les besoins de l'âme ne sont pas les premiers ressentis. Les besoins de l'âme ne sont pas les plus criants. D'accord ? Nous devons apprendre donc à écouter ces besoins profonds et vitaux plutôt que nos désirs, je l'ai dit comme ça, nos désirs d'enfants gâtés. On est un peu des enfants gâtés. Et puis parfois, c'est ça qu'on entend bien plus que vraiment les désirs, les besoins profonds de notre âme qui disent « Ah, va te ressourcer, va chercher en Christ, creuse la parole. C'est ça que tu as besoin, mon fils. C'est ça que tu as besoin, ma fille. » Puis nous, on a nos petits trucs d'enfants gâtés qui reviennent à la surface. Alors parfois, il faut un passage dans le désert, hein, parce que le désert, ça crée la soif. Et puis ça nous pousse à rechercher l'eau. Parfois, en cas de maladie, les besoins futiles, hein, c'est si vous avez passé par des grosses maladies ou des situations difficiles, on voit que les besoins futiles, ils prennent toute une autre dimension. C'est fou. Hein, quand vous perdez quelqu'un aussi, quand vous êtes dans une période de deuil, les gens vous parlent de trucs, mais c'est chacun à notre niveau, quoi. C'est comme ça. Josué, tu disais, je parle les lunettes qui étaient griffées. T'as dit, c'est peut-être rien, bien sûr, il y a bien plus grave. C'est vrai. Mais pour toi, c'était quelque chose d'important aujourd'hui. Et puis pour d'autres, quand tu vis la maladie, c'est vrai, quand tu perds quelqu'un, y a tellement d'autres choses. Ça prend une autre dimension. Et des fois, c'est dans ces moments-là que vraiment on arrive à comprendre quels sont nos besoins qui sont profonds. Deuxième apprentissage aujourd'hui. Ça va, vous êtes encore là ? On l'a bien chanté, moi je trouve que c'était très conduit ce matin. Apprendre à être reconnaissant. Apprendre à être reconnaissant. Je crois vraiment que ça, c'est une antidote à l'insatisfaction, c'est la reconnaissance. Paul était continuellement reconnaissant, hein, il rendait grâce. J'ai eu quelques passages rapides. Romains 1:8, je rends grâce à mon Dieu au sujet de vous tous. 1 Corinthiens 1:4, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pourtant, là, c'est un Corinthien, il aura fait plein d'exhortations. Hein. Il y avait une foule de choses à corriger chez les Corinthiens, mais il rend grâce. Éphésiens 1:6, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Philippiens 1:3, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Colossiens 1:3, nous rendons grâce à Dieu et nous ne cessons de prier pour vous. 1 Timothée 1:3, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières et nous rappelons sans cesse, etc. 2 Timothée 1:3, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. 2 Thessaloniciens 2:13, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Savez-vous être reconnaissant? Voyez-vous encore les bontés de l'Éternel? Je crois vraiment que la reconnaissance, ça balaye toutes les insatisfactions. Parce qu'on va reconnaître ce que Dieu a fait. Puis on va l'exprimer. On va l'exprimer dans la louange, dans le témoignage. La reconnaissance, elle est même impérative. 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Hein, donc c'est un impératif. Colossiens 3, 15, que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne sur vos cœurs. Soyez reconnaissants. Et je crois vraiment que le manque de reconnaissance, c'est un grand mal du siècle. Et puis, c'est une source d'insatisfaction. Dans 2 Timothée 3, 3, il a dit, hein, dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Il y a une liste de choses, mais ils seront ingrats. Il n'y aura plus de reconnaissance. Donc j'aimerais nous encourager à être dans cette année avec avoir ce désir de cultiver la reconnaissance, pouvoir rentrer en 2022 en disant j'aimerais prendre ça comme une valeur pour mon année 2022. J'aimerais changer cette mentalité puis voir ce que Dieu fait, puis lui rendre gloire, puis lui dire merci, même quand ce n'est pas facile. Troisième apprentissage, pour être satisfait, c'est d'apprendre à cultiver la présence du Seigneur. Bien sûr, la véritable, l'unique source de satisfaction, c'est la présence de Dieu. Ça, c'est clair. Et je vous ai parlé plusieurs fois du temple, hein, quand il y a l'inauguration du temple, c'est la gloire de Dieu qui remplit ce temple. Ben, moi, c'est un peu ça que je vois. C'est que cette présence de Dieu, hein, il y a cette nuée, ce feu qui vient remplir le temple. Et nous, on est le temple. Donc, quand on cultive cette présence, il y a la présence de Dieu, sa gloire. Ça devait être extraordinaire. C'était juste un petit reflet de la gloire de Dieu. Mais quand on verra la gloire de Dieu, les amis, ça va être juste génial. Mais on peut déjà avoir un petit peu de cette gloire qui vient juste remplir, qui vient combler, qui vient satisfaire nos profondeurs. Mais c'est clair qu'il y a toujours cette part qui nous revient. Cherchez d'abord, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. On a plein de récits d'hommes de Dieu qui ont été assoiffés de Dieu, qui avaient une faim, une soif. Hein. Moïse, Daniel, on voit dans les psaumes, David. Mais ça doit nous inspirer, avoir cette soif de la présence de Dieu. Psaume 90, verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Jérémie 31, 25, je rafraîchis l'âme épuisée et je rassasie toute âme languissante, dit l'Éternel. Jean 1, 16, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Éphésiens 3, 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il y a une recherche, une soif qui vient combler. Vivre la présence de Dieu, chérir sa présence. C'est vraiment là que se trouve la joie et la satisfaction. Et je sais que vous le savez, je sais que je le sais, mais il faut le mettre en pratique. C'est tellement important. Et oui, des fois, moi, j'hallucine de me sentir un peu là, comme ça, prendre un temps avec Dieu, sortir de ce moment-là. Je dis, waouh, mais c'est tellement génial! Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi je n'y suis pas resté même? Hein, c'est fou, on sait. Alors je vous encourage encore à vraiment... Moi j'aime cette notion-là de chérir de chérir la présence de Dieu. Quelques figures du passé nous rappellent cela. J'ai eu deux citations que je trouvais intéressantes et fortes. Celle de Frank Laubach, c'est un célèbre missionnaire américain. Il a dit, en parlant de cultiver la présence de Dieu, « C'est très simple, si simple que n'importe quel enfant peut le faire. » On est d'accord, hein ? Cette simple pratique ne demande qu'un léger effort de la volonté. Qu'un léger effort de la volonté. Il faut un petit peu de volonté. Ce n'est pas un exercice trop difficile pour qui que ce soit. Cela devient toujours plus facile au fur et à mesure que l'on s'y exerce. Puis ça, je le crois. Plus on le vit, plus ça devient, ça fait partie, c'est normal. Et pourtant, cela transforme la vie en ciel. Puis c'est juste ça que j'aimerais relever, je trouve ça tellement joli comme manière de le dire, ça transforme la vie en ciel. Cultiver la présence de Jésus dans nos vies. Et puis C.S. Lewis, l'auteur bien connu, il dit « Le vrai problème de la vie chrétienne survient là où on ne le cherche pas habituellement. Il se manifeste au moment de votre réveil chaque matin. Tous les désirs et les espoirs pour la journée qui s'ouvre vous assaillent comme des animaux sauvages. La première tâche chaque matin consiste simplement à les repousser tous, à écouter une autre voix, à adopter un autre point de vue permettant à une vie plus vaste, plus forte, plus paisible d'entrer en vous, et ceci tout au long du jour. Nous ne pouvons y parvenir qu'épisodiquement tout d'abord, mais à partir de ces moments privilégiés, la nouvelle vie se développera à travers notre être, parce que maintenant nous laissons le Christ travailler où cela est nécessaire. » Là aussi, il y a cette notion de laisser faire, mais il y a une question de temps. Hein. Petit à petit, la vie va se développer, donc il y a ça. Donc le problème de la vie chrétienne, il est le matin. Ça commence par là. Ok ? C'est pas mal. Hein. Alors que notre jardin en 2022, que ce soit en permaculture ou non, hein, surtout que nous puissions cultiver la présence de Dieu, qu'elle puisse grandir en nous. Je conclue simplement, et je conclue toujours presque ces messages avec ce même verset. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Parce qu'il n'y a pas de victoire sans Christ. Hein. Ça, c'est la base. Mais j'aimerais nous encourager. Apprenons le contentement. Changeons de mentalité. Développons cette attitude de reconnaissance. Veillons à écouter nos besoins de l'âme plutôt que nos désirs de la chair. Laissons la présence de Christ nous remplir et vraiment venir nous combler. Sa présence transforme la vie en ciel. Choisissons d'écouter sa voix chaque matin. Laissons entrer cette vie plus vaste dont nous parle C.S. Lewis. Alors j'aimerais simplement vous inviter à un petit temps de recueillement, peut-être juste baisser vos têtes, incliner vos têtes, fermer vos yeux. Que ensemble, chacun, individuellement, mais aussi en tant qu'Église, nous puissions faire ce choix-là, de renoncer à l'insatisfaction en 2022. De regarder à ce que Jésus fait, à ce que lui dit, à ses grâces. Qu'on ne soit pas ses enfants gâtés, mais ce qu'on se réjouisse du menu qu'il a pour nous en 2022. Oui, Père, merci parce que tu nous donnes en abondance. Tu combles nos besoins. Seigneur, on veut aussi faire taire en nous ces désirs qui sont souvent contraires à l'esprit. Et on veut se réjouir de ce que tu nous donnes. Même dans des situations de désert, même dans des moments difficiles. Seigneur, on a cette conviction, on l'a tous dit, on croit que tu es capable de nous rassasier. Et on veut que tu le fasses. Alors Saint-Esprit, merci de faire ton œuvre maintenant en nous. On veut quitter cette mentalité de murmure pour développer cette culture de la reconnaissance. Merci Jésus pour ce que tu as préparé pour nous en 2022. On ne veut pas juste regarder au sable du désert, à notre situation immédiate, mais on veut garder en ligne de mire ta vision, ton projet, ton projet de paix pour nous. Merci, Saint-Esprit, de nous conduire dans cette nouvelle année. Merci de venir rassasier, combler en profondeur les besoins de nos âmes ce matin. Ils sont tous différents, mais tu les connais. Merci d'en prendre soin. Que ton nom, Jésus, soit béni. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre écoute. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en 2022. Amen.